RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac, le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, grand reportage. Aujourd'hui, en Irak, fin décembre 2017, le gouvernement irakien annonçait la fin de la guerre contre l'organisation État islamique. Une guerre débutée en 2014 qui a fait des milliers de victimes et jusqu'à 6 millions de déplacés internes. L'Irak est aujourd'hui à reconstruire après des destructions immenses. Mais l'une des priorités, ne faites aucun doute, c'est l'éducation. Selon l'UNICEF, pendant ces années de conflit, 3 millions d'enfants ont vu leur scolarité interrompue. L'organisation onusienne alerte, une génération entière pourrait être sacrifiée. Dans la région de Fallujah, à l'ouest de Bagdad, reprise aux islamistes en 2016, les enfants ont commencé à retourner à l'école. Certains avaient fui la zone avec leur famille pour des camps de déplacés. D'autres ont dû rester dans des zones contrôlées par l'EI. Pour tous, retourner à l'école est un pas immense. Irak après Daesh, le défi majeur de l'éducation. Grand reportage, signé Nicolas Ropert.
Les rues de Fallujah portent encore les stigmates de la guerre. Sur les façades des bâtiments, on peut voir des impacts de balles. Des immeubles éventrés se succèdent, résultat des bombardements de la coalition. On aperçoit facilement la violence des combats qui ont fait rage ici en 2016 pour reprendre rue par rue la ville aux mains de l'organisation État islamique. L'EI a contrôlé pendant 2 ans la cité des mosquées, le surnom de Fallujah. Depuis, les armes se sont tues, mais la situation reste tendue dans une ville connue comme fief de l'insurrection contre la présence américaine sur le sol irakien depuis 2003. Sur le marché de Fallujah, quelques-uns des 400 000 habitants viennent faire leurs courses. Comme près de la moitié de la population, Abdallah Menaf et sa famille n'ont pas pu s'enfuir immédiatement à l'arrivée de l'EI en 2014. Le garçon n'a que 13 ans, mais il a déjà beaucoup vécu.
Nous sommes restés là au début de Daesh. Aujourd'hui, c'est mieux. Je travaille dans une épicerie. C'est pour aider ma famille. Je fais ça depuis 3 ans l'après-midi. Le matin, je vais à l'école et ça me plaît comme ça. J'apprends des choses le matin qui m'aident pour travailler. J'apprends à lire et à compter, par exemple.
Il n'est pas encore midi, mais Abdallah a déjà terminé les cours. Ici, l'école a lieu par roulement. Abdallah y va le matin. C'est comme ça dans l'Anbar, la province de Fallujah, depuis que les établissements ont repris leur fonctionnement il y a 18 mois. Il y a trop d'élèves pour le nombre d'écoles rouvertes. Le jeune garçon n'oubliera pas les moments difficiles qu'il a vécu dans le passé, notamment quand l'EI tenait la ville d'une main de fer.
Bien sûr que je me souviens de la guerre. Quand Daesh contrôlait la ville, ils étaient violents avec nous. Par exemple, je nous obligeais à aller prier à la mosquée. On devait porter des habits noirs, et si on ne le faisait pas, ils pouvaient nous tuer. Je n'ai pas oublié ces durs moments. C'est comme si on était dans un cauchemar. Mais là, nous l'avons vraiment vécu.
L'école de filles Al-Falestine est située dans un quartier résidentiel de la ville. Plusieurs centaines de petites Irakiennes, entre 6 et 15 ans, se pressent bruyamment dans des locaux où la peinture s'écaille au plafond. L'important ne semble pas être là. Les filles ont toutes l'air d'être ravies d'avoir repris le chemin de l'école. Mohamed Salah est très fier de nous présenter ses élèves. Assise à 2 ou 3 par pupitre, elle retrouve un peu de normalité, témoigne le recteur de Fallujah.
Quand nous sommes revenus dans la ville de Fallujah, il y a 2 ans, nous avons retrouvé nos maisons. Au total, 800 bâtiments qui nous servaient de classe ont été détruits ou endommagés. Nous avons dû reconstruire ou réparer parfois nous-mêmes ces écoles. Nous n'avions qu'une seule idée en tête, pouvoir accueillir de nouveaux élèves à l'école. On savait que c'était comme ça que la vie reviendrait.
À la rentrée 2016, seuls 2 établissements ont pu rouvrir. Une centaine d'enfants est retournée à l'école. Les autres établissements scolaires ont mis un peu plus de temps avant d'être opérationnels. Aujourd'hui, 80 000 élèves sont de retour. C'est quasiment autant qu'avant la prise de la ville par l'EI, se félicite le recteur. Comme certaines de ses camarades, Oumeima Youssef, 12 ans, a dû interrompre sa scolarité. La jeune fille, un foulard blanc sur les cheveux et la robe bleu marine réglementaire, a trouvé refuge avec sa famille au Kurdistan irakien pendant la guerre. Rentrée à Fallujah, elle se retrouve maintenant en classe avec des élèves plus jeunes qu'elle.
Quand je suis partie à Erbil avec ma famille, je n'ai pas pu aller à l'école. Ça a duré 2 ans. Je suis enfin contente d'y retourner. J'étais très triste d'avoir loupé ces 2 années. J'aurais préféré pouvoir continuer. Aujourd'hui, je me retrouve à un niveau en dessous de celui que je devrais avoir. Je devrais être au collège, mais je suis encore à l'école primaire à cause de tous ces événements. C'est vraiment dommage. Je vais quand même essayer de rattraper mon retard.
À la récréation, Oumaima et ses copines racontent leurs expériences respectives. Plus de la moitié de sa classe est partie pour le Kurdistan. Certaines ont pu suivre des cours dans les camps de réfugiés où elles étaient installées. D'autres ont dû rester à Fallujah avec leur famille, faute de moyens.
Je n'avais que 8 ans quand nous avons quitté la ville avec mes parents et mes sœurs. Moi, j'ai un peu oublié comment cela s'est passé. Mais quand je parle avec mes copines, certaines racontent des histoires horribles à propos de Daesh. Elles se souviennent de l'époque où ils contrôlaient la ville et les écoles. Elles ont vécu ça. C'était vraiment des moments difficiles, avec des crimes tout le temps.
Lorsque les forces irakiennes ont repris la ville, il a d'abord fallu déminer les bâtiments. Certaines écoles servaient d'ateliers de fabrication de voitures piégées, raconte le personnel. Dans son petit bureau, au milieu d'un couloir mal éclairé, Anna Mohamed. Avant d'abandonner les bâtiments lors de l'arrivée de Daesh, la directrice de l'école a eu un réflexe salutaire, récupérer tous les documents administratifs. Ce geste, qui aurait pu lui amener de sérieux problèmes si les islamistes l'avaient su, a permis de remettre en marche l'établissement très rapidement après le retour des forces irakiennes.
Je savais que tous les fichiers et ces dossiers scolaires étaient très importants. Il y avait beaucoup d'informations, comme le nom des élèves, où est-ce qu'ils habitaient, en quelle classe ils étaient. C'est pour cela que je suis venue récupérer toutes ces informations. J'ai appelé mes frères et sœurs pour qu'ils viennent m'aider, car il y en avait beaucoup, et ensuite, ils ne m'ont jamais quittée. Je les emmenais avec moi partout où j'allais. Ces documents, c'était plus que du papier. Pour moi, ce sont les choses les plus précieuses au monde. Ils ont permis à la vie de reprendre plus vite une fois cet épisode terminé.
Mais lors de la remise en route des établissements, les enfants déscolarisés n'ont pas été les seuls à connaître des difficultés. Si plus de la moitié de la population a pu quitter la ville pendant son occupation par Daesh, les autres ont dû rester sur place. Le regard fuyant, un blouson en cuir marron sur les épaules, Assad Amjed, 12 ans, a passé un an et demi dans la ville occupée par l'organisation État islamique. Ignorant les changements que l'EI avait apportés au manuel scolaire, ses parents l'ont envoyé à l'école, alors reprise en main par les djihadistes. Il se souvient du changement, notamment au niveau des programmes scolaires et les brimades imposées par les professeurs pro-EI.
Au début, quand Daesh a pris la ville, je suis allé à l'école, mais j'ai remarqué que les livres étaient différents. Ça ne parlait plus que de la religion. J'ai raconté à mes parents que le programme avait changé et à partir de ce moment-là, ils m'ont interdit de retourner à l'école. J'étais triste, mais ma mère a décidé de nous faire l'école à la maison avec mes frères et mes sœurs. On avait encore les anciens livres, donc ça allait. C'est dommage d'avoir loupé l'école, mais c'était mieux que d'aller dans l'école de Daesh, où les enfants étaient menacés et frappés. Je ne voulais pas vivre ça.
Sous l'organisation État islamique, de nouveaux programmes scolaires avaient en effet été créés de toutes pièces pour remplacer ceux existants. Les leçons d'histoire faisaient commencer le monde avec l'arrivée du prophète. La géographie était revisitée pour faire disparaître les États existants. Les exercices de mathématiques se faisaient, eux, en prenant des cas appliqués à la guerre. Des livres retrouvés montrent notamment que les enfants devaient calculer combien de chargeurs il fallait pour tuer 24 mécréants. Assad en a été traumatisé.
Mes amis, ils ont fait comme moi. Au début, ils sont allés à l'école. Après, leurs parents leur ont dit de ne plus y aller. Et puis, on a tous réussi à partir de Fallujah. On est parti dans une ville où il n'y avait pas Daesh. Là-bas, j'ai pu reprendre l'école. J'y suis resté un an. C'était bien mieux qu'avec Daesh. J'avais vraiment peur d'eux. Quand ils passaient dans la rue, avec mes frères, on partait se cacher dans la maison pour ne pas voir leur regard effrayant. Et quand on sortait, on évitait de leur parler. Donc finalement, c'était plus prudent de ne pas aller à l'école.
Au-delà de cet aspect, les enfants qui ont vécu sous l'organisation État islamique ont aussi souffert des privations et de la guerre. Beaucoup, comme Azer, 13 ans, décrivent avec leurs mots les bombardements menés par la coalition pour reprendre la ville. Un moment très difficile, raconte le garçon à la voix fluette.
À l'époque de Daesh, la vie était très difficile. On vivait comme en prison. Il n'y avait même pas d'électricité. On restait à la maison parce qu'il y avait la guerre dehors. C'était un grand choc de revenir à l'école. Je n'ai pas pu y aller pendant 3 ans. 3 ans de ma vie. Je dois maintenant rattraper mon retard. J'ai été mis dans une classe pour essayer de progresser. Mais c'est très difficile pour moi. Les élèves qui sont partis de la ville, eux, Ils ont pu suivre des cours, mais pas moi.
Lors du retour du gouvernement dans ces zones, il a fallu remettre en place le système scolaire. Mais il a aussi fallu accompagner les élèves les plus touchés psychologiquement. C'est ce qu'explique Mohamed Salah, le recteur du district de Fallujah.
Les effets psychologiques sur les enfants étaient vraiment énormes. Beaucoup d'entre eux étaient traumatisés. Quand nous avons repris les cours, nous avons vraiment insisté sur le fait que Daesh était une mauvaise organisation et que le gouvernement était là pour faire le bien. Au début, certains enfants refusaient de parler, ils nous rejetaient. On voyait bien que certains d'entre eux étaient encore embrigadés par l'idéologie de Daesh. On a tenté de leur expliquer, de les convaincre, en leur disant que le gouvernement était là pour leur apporter la sécurité et pour les protéger.
Au milieu d'une salle de classe bondée, une jeune femme apprend l'alphabet à ses élèves en chantant. Wissal Aboud est professeur d'anglais pour les primaires. Elle vit son métier comme une passion. Lors de la reprise des écoles, il a aussi fallu retrouver des enseignants. Sous l'organisation État islamique, les professeurs avaient été remplacés par de fervents militants de l'EI. Revenu parmi les premières, Wissal n'a pas ménagé ses efforts.
Je suis partie à Erbil, au Kurdistan, mais là-bas, j'ai aussi donné des cours aux enfants déplacés dans les camps. J'aime tellement mon métier. Quand je suis revenue ici, j'ai commencé à tout faire moi-même. Il n'y avait pas d'argent pour remettre les salles de classe en état, alors on l'a fait de nos propres mains. On a refait la peinture, j'ai décoré moi-même ma salle avec ses lettres, tout ça avec nos petits moyens. Mais on est fiers du résultat, de tout ce qu'on a fait.
La professeure a immédiatement remarqué la fragilité psychologique de certains enfants. Au moment de la reprise des cours, beaucoup d'entre eux étaient encore sous l'influence de l'organisation, selon elle.
Quand je suis rentrée et que l'école a recommencé, j'ai bien remarqué que certains enfants avaient peur de nous. Ils avaient peur de tout, en fait. Dès qu'ils voyaient un policier, par exemple, ils allaient se cacher. Certains ne voulaient pas nous parler. Et puis, au fur et à mesure, nous avons vu des évolutions. Ils ont commencé à nous apprécier. Aujourd'hui, ils se souviennent encore des tirs et des bombardements. Mais maintenant que l'on a retrouvé la sécurité, ça va mieux.
Pour aider les professeurs à détecter les enfants les plus fragiles, le gouvernement a mis sur pied un programme spécifique. Les enseignants doivent détecter les élèves encore marqués et leur proposer différentes activités éducatives. Un programme qui est mis en place dans la région de Fallujah et dont se félicite le recteur, Mohamed Salah.
Nous avons mis en place des ateliers artistiques. On organise aussi des compétitions sportives avec d'autres villes. Il y a un concours de poésie auquel participent certains élèves. Ces manifestations sont de grands succès partout dans le pays. On montre ainsi aux enfants qu'ils peuvent faire des choses et c'est la preuve que la vie revient.
Ce programme pour la cohésion nationale est aussi salué par le colonel Jamal Al-Joumali. Dans son grand bureau, le chef de la police du district de Fallujah assure que la région est à 100% sous contrôle des forces gouvernementales. Il met en garde contre l'influence que conserve malgré tout l'organisation djihadiste dans l'esprit de certains Irakiens.
Nous devons continuer à lutter contre Daesh car l'organisation est encore présente dans la tête de nombreuses personnes, dont les enfants. Nous devons lutter avec les bonnes méthodes contre cette organisation néfaste. Ce programme spécifique pour les enfants est très bien. Il permet de faire changer les choses. Les adultes, c'est différent. Leur place, c'est en prison. C'est aussi simple que cela. Ce qu'ils ont fait est impardonnable.
Dans un rapport rendu public il y a quelques mois, l'UNICEF alertait la communauté internationale. Pendant les 4 ans de guerre contre l'EI, les enfants irakiens ont été les plus exposés. 3 millions d'entre eux ne vont toujours pas à l'école régulièrement et environ 1 million est toujours complètement déscolarisé dans le pays. La région de Mossoul est la première concernée. Mais dans l'Anbar, la plus grande province irakienne, le risque d'une génération perdue inquiète aussi l'organisation onusienne. Vendeur de vêtements et père de 5 enfants, Amer Turki est rentré il y a quasiment 2 ans à Fallujah. Il avait quitté sa ville d'origine avec l'arrivée de l'EI en 2014. Il regrette qu'aucune prise en charge psychologique n'ait été proposée à ses enfants.
Mes enfants se souviennent de la guerre. Dès qu'il y a un bruit dans la maison, ils pensent que c'est un bombardement. Je dois en permanence les rassurer, leur montrer que ce n'est rien. C'est dur pour eux de sortir et d'aller à l'école. Ils ont peur en permanence. Ils ont des images de violence en tête, mais j'essaie de les rassurer dès que je peux. J'espère qu'avec le temps, ils pourront oublier.
Amer nous invite chez lui et nous présente sa famille. Dans la cuisine, Nour, sa femme, prépare le repas. Son fils, Abdallah, sort timidement de la chambre qu'il partage avec ses frères. l'aîné des Turquies, a 13 ans. C'est lui qui a le plus souffert, dit son père.
C'est vrai qu'entre nous, on parle beaucoup de la guerre. On se raconte nos histoires. Elles sont toutes très choquantes. Un de mes amis a perdu son père. Donc on ne peut pas parler d'autre chose. On a tous vécu la guerre, les bombardements, les explosions. Moi, par exemple, je suis parti dans le nord de l'Irak. Donc je leur raconte ça. Et eux, ils racontent comment ça s'est passé pour eux. Nous sommes obsédés par la guerre. C'est triste, mais c'est comme ça. Quand on joue dans la cour, on n'est pas sûr d'être en sécurité. On est toujours sur nos gardes, après tout ce qu'on a vécu.
Cette obsession, Nour la regrette. La mère de famille, entourée d'un grand voile clair, prend la petite dernière dans ses bras et rejoint la discussion. Pour elle, ses enfants ont besoin d'être suivis psychologiquement.
Tous les matins, quand je dois emmener les enfants à l'école, c'est l'enfer. Ils refusent d'y aller. Ils ont peur de marcher jusqu'à l'école et de rentrer dans les bâtiments. C'est à cause de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Leur esprit est toujours traumatisé. Ils ne se sentent en sécurité qu'à la maison. Ils étaient à l'école quand la guerre a commencé. Donc pour eux, l'école est liée à la guerre. Ils ont gardé ces images dans la tête.
Dans son bureau de Bagdad, Naïf, sa mère, est sollicitée de toutes parts. Chargé de la reconstruction au ministère de l'Éducation, ce fonctionnaire est à un poste clé pour l'avenir des enfants. Selon ces chiffres, une école sur deux dans le pays doit être remise en état. Un chantier immense. Il assure que cette reconstruction matérielle permettra de ramener la stabilité.
Nous devons nous attacher à faire changer les choses. Ces enfants ont vécu des épisodes dramatiques et Daesh a pris ces territoires. Beaucoup de gens ont fui, mais d'autres ont été contaminés par ces terroristes. C'est le cas dans la région de Mossoul ou dans la région de Fallujah, par exemple. Daesh a perverti les gens et leurs enfants, mais grâce à nos efforts, ce sentiment est en train de disparaître. Tout le monde a bien compris qu'il fallait soutenir le gouvernement. C'est pour cette raison que nous ne devons pas relâcher nos efforts et continuer à travailler.
Tout le monde ne partage pourtant pas cet enthousiasme. Hicham Al-Zahabi nous fait visiter ses installations. Ce quadragénaire dirige l'association qui gère cet orphelinat de Bagdad. Dans la salle de projection, scotché devant le grand écran, des petits dont certains n'ont pas 5 ans. Au total, une centaine d'enfants dorment et font différentes activités toute la journée ici. Certains viennent de territoires qui ont été occupés par l'organisation État islamique. Leurs parents ont été tués dans les combats, certains soutenaient le I. Hicham Al-Zahabi dénonce la lenteur et la passivité du gouvernement irakien.
En Irak, il n'y a pas de structure gouvernementale pour accueillir les orphelins. Il n'y a pas de loi qui protège les enfants. Aucune structure médicale n'est dédiée spécifiquement aux enfants. Ils sont complètement laissés à l'abandon. Ils n'ont aucune perspective d'avenir. Sans les ONG, ces enfants seraient à la rue. Vous vous rendez compte? Alors qu'ils font partie de la société comme tout le monde.
Dans l'une des salles, un jeune garçon improvise un petit concert au saxophone, suivi par ses camarades. Ses enfants sont détruits, confie Hicham Al-Zahabi, la mine défaite. Pour lui, le plus dur commence aujourd'hui pour l'Irak.
Daesh laisse un très lourd héritage à l'Irak. Le pays est en partie détruit. Il y a des orphelins par milliers. Il faudra du temps pour retrouver une vie normale. La guerre contre Daesh est peut-être terminée sur le terrain, mais un nouveau combat plus difficile encore commence. C'est l'après Daesh.
Le ministère de l'Éducation sait bien que l'investissement de près de 30 millions d'euros consenti par le gouvernement irakien ne suffira pas à reconstruire la totalité des écoles dans le pays. Naïf Samer espère aussi compter sur le soutien de la communauté internationale pour aider à cette reconstruction.
Nous devons réussir à changer les esprits de ces enfants. C'est le plus grand défi qui nous ait jamais été proposé. Si les parents ne peuvent pas le faire, c'est à l'école de réussir ce défi. C'est ce que nous mettons en place et c'est notre objectif. Ces enfants, ce sont notre futur, le futur de l'Irak.
Remettre sur le chemin les enfants touchés par la guerre est un défi immense dans un pays frappé par 25 ans de conflit. Avec 40% de sa population âgée de moins de 15 ans, l'Irak n'a pas le droit de les abandonner, sans quoi l'avenir déjà incertain du pays sera menacé. Irak, après Daesh, le défi majeur de l'éducation, un grand reportage de Nicolas Repère, réalisation Thomas Trochot.